Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin. Où dormir ?
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Donc bonsoir à nouveau, cher public. Donc ce soir, il va être question de Günther Anders à l'occasion de la publication d'un objet, l'objet éditorial non identifié, difficilement identifiable, mais enfin qui est ressorti à la tradition quand même du roman, qui s'appelle La Catacombe de Moulussy, qui a été publié donc au mois de décembre de 2021. Un roman qui a été écrit donc dans les années, publié en 38 pour la première fois, je crois, fini en tout cas d'être écrit en 38, au moment où Günther Anders quitte l'Allemagne, donc passe en France avant de traverser l'Atlantique et de se retrouver aux États-Unis où il a vécu jusqu'en 52, 53, quelque chose comme ça, je crois, non ?
Jusqu'en 50.
50.
Ouais. 50, ouais.
Voilà. Donc, un roman qui, en fait, encore je dis roman, bon, les deux traducteurs vont être plus précis sur la qualification qui convient de donner à ce livre. Anders essaie de comprendre le phénomène qui fait qu'à partir de 1933, l'Allemagne a basculé dans un régime. Qui a donné le nazisme. Donc, il essaie d'analyser pourquoi, comment. Il essaie de rendre par la philosophie et par une série d'anecdotes et de petits récits. On verra comment ça fonctionne de manière enchâssée. Il essaie de comprendre le processus qui a amené donc à partir de 1933 et jusqu'en 38, 39, etc. Au-delà, bien sûr, la dictature nazie. Je ne veux pas être trop long, mais juste il faut dire que c'est un livre qu'on peut relier par certains côtés à des traditions littéraires existantes, notamment, moi j'ai pensé bien sûr au Mille et une nuits, vous verrez pourquoi. J'ai pensé à Swift, j'ai pensé à Beckett aussi, pour d'autres raisons qu'on explicitera. Et à quelque chose, si vous voulez, d'un objet littéraire qui est constitué par des histoires, des petits récits, que ça c'est le cadre, que deux hommes, un homme âgé et un homme beaucoup plus jeune, Olo, c'est le nom, un pseudo sans doute, puisqu'on verra qu'il a un autre nom, qui est un prisonnier âgé, qui est dans une cellule souterraine, d'où la catacombe, dans le noir, et qui va échanger avec un prisonnier plus jeune qui est amené au début du récit. Et donc, pendant 44 jours, ces deux prisonniers politiques donc du régime de Bourou, il s'appelle Bourou, et bon, c'est évidemment derrière, on voit le régime nazi. Donc, ils ont un dialogue, tous les deux. Ils se racontent des histoires, surtout Olo, qui va essayer de transmettre à l'autre qui s'appelle Yegoussa. Il lui transmet un savoir sous forme d'anecdotes, de récits qui sont collectionnés depuis plusieurs générations par différents prisonniers qui se sont succédés dans cette cellule qu'il appelle des agents de transmission. Ils sont là pour transmettre jusqu'à nous, le lecteur, cet ensemble d'anecdotes. Alors il y a une sorte de construction extrêmement un petit peu compliquée, un petit peu alambiquée, qui fait que le récit que nous lisons, l'ensemble des récits, est consigné par les gardiens de ces deux prisonniers dans leur cellule, dans le noir absolu, 24 heures sur 24. Les gardiens donc sont un peu comme des greffiers qui sont chargés par le pouvoir d'écouter et de retranscrire l'ensemble des dialogues que tiennent les deux prisonniers, donc des dialogues qui sont peut-être pour le plus âgé vers le plus jeune, et c'est une sorte d'éducation, j'allais presque dire au cynisme, par certains côtés. Et donc cet ensemble-là de petits événements, on apprend comment on passe d'une anecdote, si vous voulez, à une fable. L'idée, c'est ça, c'est que à la fin, tout ce savoir, toutes ces histoires constituent des fables. Ont perdu le caractère contingent et sont devenus des sortes d'exemplaires, un petit peu. Voilà. Bon, je ne veux pas être plus long. Je repasse la parole donc aux deux traducteurs qui vont. Peut-être d'abord, j'aimerais juste savoir si vous avez un éclairage sur l'origine des noms Olo et Yegusa. Est-ce qu'il y a une. Non, c'est des noms.
Alors, on a réfléchi à pas mal de liens entre les noms et des personnages réels. Et pour Olo et Yegusa, je pense qu'ils sont vraiment inventés. Par contre, d'autres personnages sont vraiment des personnages à clé, notamment Yam Yam, qu'on peut entendre comme Ayam Ayam, qui est une sorte de représentant d'Anders lui-même dans le livre. Et ce Yam Yam, c'est une figure de la résistance. Et de la résistance politique au régime dictatorial de Bourou. Et en fait, ce que va raconter les tentations de Yam Yam, le chapitre sur les tentations de Yam Yam, c'est le moment où Yam Yam va prendre la fuite de la Molucie, c'est-à-dire de l'Allemagne, pour émigrer, être exilé dans un pays qui s'appelle la Glorilie. Glorilly, qui est en fait la France. France, censée être le pays de la gloire. Bon, voilà.
La prétention à la gloire.
Je pense, voilà, c'est ça.
C'est assez ironique.
Je pense que c'est ça, oui. Mais je pense que le concept de gloire, tel qu'il est pensé en France, n'a pas d'équivalent en allemand. Et donc pour Anders, cette histoire de Glorilly renvoie vraiment à la France. Et donc, les tentations de Yam Yam vont être... ce personnage de Yam Yam va devoir apprendre à continuer, entre guillemets, sa résistance dans un pays qui n'est pas le sien. Un peu comme Anders va devoir continuer, finalement, son travail de transmission des mécanismes fascismes même quand il sera exilé en France puis aux États-Unis. Voilà. On voulait peut-être présenter d'abord un peu Anders.
Juste pour finir sur les noms. En fait, il y a toute une dimension roman à clé. C'est-à-dire qu'il y a effectivement Yam Yam, c'est effectivement Ayam Ayam. Il y a effectivement aussi un personnage de philosophe qui s'appelle Regédier, qui est un certain Heidegger. Et puis voilà, il y a toute une dimension roman à clé dans l'affaire, mais là pour Yogo, pour Olo et Yegusa, ce qu'il y a, c'est que ce sont les prisonniers, parce qu'en fait l'histoire de la catacombe de Molucie, ça se passe dans cette fameuse catacombe, c'est une cellule au fond de la prison d'État de Molucie, et cette cellule qui est au fond de la prison d'État de Molucie, il y a toujours deux prisonniers dedans. Et en fait, le temps passe et puis les prisonniers se succèdent. Et en fait, le plus âgé s'appelle toujours Olo, le plus jeune Yegusa. Mais en fait, ils renoncent à leur vrai nom en rentrant. Et ils se trouvent rebaptisés Olo et Yegusa. Voilà. Voilà, et donc pour les noms, c'est ça. Et puis sinon, en fait, le roman, c'est un roman quasi posthume. C'est-à-dire que Anders a donné l'autorisation de publier ce roman en 92. Il est mort en 92. Il a donné l'autorisation de publier ce roman juste avant de mourir. Et en fait, c'est un roman quasi posthume. Il a juste vu la première édition incomplète du roman. Et voilà, quoi. C'est quelque chose qui lui a tenu à cœur toute sa vie, et quelque chose c'est un roman dans lequel il a déposé toute une conception de la politique et toute tout plein de choses concernant son rapport à l'Allemagne. Et c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui l'a accompagné toute sa vie, quoi.
Peut-être faire une petite présentation d'Anders. Et une petite présentation de l'histoire du manuscrit du livre qui n'est pas commune. Donc pour commencer avec Anders, s'appelait à l'origine Günther Stern. Donc c'est le fils d'un célèbre psychanalyste, William Stern, qui a travaillé sur l'enfance. Donc en fait, Anders, c'est un pseudonyme qu'on lui a demandé de choisir quand il écrivait dans le Börsen-Courrier. Et c'est Brecht et le rédacteur en chef du Börsen-Courrier qui lui ont demandé de s'appeler autrement. Et Anders a répondu d'accord, je vais m'appeler Anders, qui signifie autrement. Donc rien que par son pseudonyme, donc on est encore dans des histoires de choix de nom et de choix de pseudonyme, rien que par son pseudonyme, Anders cherche à se présenter comme une sorte d'original ou de trouble fait de la philosophie. Donc ben, Anders, c'est vraiment un philosophe, c'est-à-dire qu'il a fait ses études avec Husserl et avec Heidegger, donc les deux grands penseurs phénoménologues du début et même de la fin pour Heidegger du XXe siècle. Et donc il a écrit une anthropologie philosophique dans la lignée aussi de Scheler et de Plessner, qui sont les anthropologues, sœurs de l'anthropologie philosophique de l'époque, pour aussi se démarquer de la philosophie de Heidegger, qui a emprunt toute sa pensée. Donc pour résumer ça assez rapidement, la Molussie, c'est le texte politique avec lequel Anders va rompre avec ses interrogations de phénoménologie, de philosophie, on va dire spéculative, pour rentrer dans les questions proprement politiques. Donc ce qu'il faut en comprendre aussi de la biographie d'Anders, et qui est vraiment important, c'est que c'est un juif allemand qui a dû émigrer en Allemagne en 1933, donc juste au moment de l'incendie du Reichstag. En France en 1933, au moment de l'incendie du Reichstag. Il y a une sorte d'épopée du manuscrit de la catacombe qui doit le suivre en Allemagne. Donc il y a plusieurs récits qui courent sur ce manuscrit. Arendt aurait emmené dans son propre exil le seul manuscrit qui existait.
Il faut dire qu'il il a été l'époux d'Anna Arendt pendant une douzaine d'années, je crois, quelque chose comme ça.
Enfin, on ne sait pas trop quand ça a fini, c'est pas très clair.
Ils ont divorcé à Paris, je crois.
Oui, mais ils n'étaient déjà plus ensemble avant. Bref, donc en fait, Arendt avait avec elle le manuscrit de la catacombe. Donc Anders a fui le plus rapidement possible, juste après l'incendie du Reichstag en France. Arendt a suivi quelques temps plus tard et elle a emporté avec elle le manuscrit enveloppé avec du jambon, enveloppé pour que la censure ne le voit pas et ne le confisque pas. Et en fait, Anders raconte que dans les mois d'exil à Paris où il n'avait rien à manger, le manuscrit de la catacombe lui servait de sauce odorifique pour agrémenter ses plats avec une légère odeur de jambon.
Il s'achetait une baguette de pain et puis il reniflait son manuscrit. Il avait l'impression de manger un sandwich. Quoi.
Voilà, donc tout ça pour dire que Anders, c'est un philosophe de l'exil et que cet exil se retrouve après dans certains récits et dans certaines fables de la catacombe. Parce que finalement, la catacombe, elle est commencée au début des années 30, au début de la montée du fascisme et de la prise de pouvoir d'Hitler. Et Anders va l'emmener comme une sorte de journal intime et continuer de l'écrire à Paris, puis l'emmener quand il va en exil aux États-Unis. Il continue en 1938 aux États-Unis. Donc voilà, il y a toute une histoire, une sorte d'épopée du manuscrit qui est transportée à travers le monde entier, en même temps qu'Anders est forcé à l'exil par le contexte politique qu'il est en train de vivre.
Il y aurait tellement de choses à dire sur ce personnage qu'on ne sait pas. On ne sait jamais trop comment où s'arrêter. C'est tellement extraordinaire.
Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y avait quelque chose qui m'a interpellé. Vous parliez du côté transmission. Est-ce qu'effectivement, ce qui se passe dans cette cellule de prison, c'est qu'un prisonnier plus vieux transmet à un prisonnier plus jeune tout un savoir sur la vérité et le mensonge en politique, surtout le mensonge et la vérité en politique plutôt. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un roman qui raconte une transmission, mais qui lui-même, en tant que roman, est un objet de transmission. Et finalement, c'est censé arriver jusqu'à nous. Et normalement, ça devrait continuer à circuler, quoi.
Par le biais des matons qui sont en train de faire les greffiers derrière le mur de la prison.
C'est compliqué.
Merci à eux.
Finalement, ce savoir, ça fait partie de la question du mensonge. Ce savoir, il finit par être transmis par l'ennemi, quoi. Et c'est intéressant aussi. C'est par rapport au contenu du roman, c'est intéressant que ce soit l'ennemi qui finisse par transmettre la vérité.
C'est tout à fait.
Politique sur la politique.
C'est ça.
Faut pas spoiler la fin.
C'est tout à fait dans l'esprit, oui, de ce texte. Alors, Votre préface est très très moi m'a beaucoup intéressé puisque je vous insistez sur le fait qu'en fait ce texte doit quand même être pris comme un roman hein. Parce qu'on dit bon après tout un philosophe écrit un roman donc il va sûrement développer sa pensée et puis non vous dites d'entrée non cet objet là est un roman c'est donc on peut supposer que dans le terme roman on sous-entend la présence d'une fiction, de la fiction. Et effectivement, il y a une construction qui est finalement fictionnelle par la situation de départ. Vous pouvez, oui, par rapport à ça, expliquer qu'est-ce qui vous fait réellement le style, par exemple. C'est-à-dire que nous, on a une traduction, donc peut-être on n'a pas tout à fait la même. J'imagine qu'elle est très bien, c'est pas du tout. Je ne mets pas en doute votre traduction, surtout après avoir lu L'obsolescence de l'homme. Est-ce que la langue vous a aussi orienté vers l'idée comme ça que c'est vraiment un objet littéraire et un roman ?
J'y vais. Bah, merci pour votre question parce que c'est vraiment, enfin, nous ce qui nous tient à cœur, c'est de montrer que ce roman c'est un objet littéraire non identifié comme vous l'avez dit, mais en même temps c'est un vrai objet littéraire. Et en fait, c'est pas étranger avec toute la théorie politique ou poétique, pardon, d'Anders, que Anders développe dans le roman lui-même. Il y a plein de fables de métapoétique ou de fables qui expriment la pensée poétique d'Anders. Et l'idée, en fait, pour Anders, c'est que la fiction doit être un objet de connaissance. C'est-à-dire que on peut commencer par dire que La Molucie, c'est un roman, comme on l'a dit un peu avant, un roman à clé, mais surtout un roman qui se construit comme une sorte de double de l'Allemagne. C'est-à-dire un roman où l'Allemagne est mise à distance par la fiction, par la fable, pour pouvoir mieux, par cette mise à distance fictionnelle, comprendre les mécanismes et comprendre et analyser les mécanismes du fascisme. C'est-à-dire que on peut décrire la poétique d'Anders comme une sorte de fabulisme réaliste. C'est-à-dire qu'il s'agit de décrire un réel, un monde réel, une histoire, mais toujours en utilisant la fable et la fiction pour créer une sorte de mise à distance nécessaire pour pouvoir mieux comprendre cette réalité. C'est-à-dire que la fable, elle est construite par Anders comme une sorte d'instrument, un outil de connaissance qui va grossir les traits de la réalité pour mettre au jour ce qui est caché sous ces idéologies, sous les idéologies qui recouvrent en fait notre compréhension de la réalité.
Ça, c'est très important. Il y revient très souvent, et même après, d'ailleurs.
C'est ça. Donc, en fait, pour Anders, la fable, c'est comme un instrument d'optique. Il le dit dans plusieurs fables, dans ses fables métapoétiques. La fable, c'est comme un microscope ou un télescope qui va nous mettre à juste distance du réel pour mieux l'analyser. Et donc, en fait, comment dire ? C'est-à-dire que pour Anders, l'aliénation, le fait de se voir privé de monde, c'est toujours une forme d'étrange. Enfin, c'est le moment où le monde nous devient étranger, où on soustrait le monde à notre regard. Et la fable, la fiction, c'est le moment où on va pouvoir rendre entre guillemets le monde lui-même étranger d'une autre manière pour pouvoir l'éclairer d'une autre manière. C'est-à-dire que pour Anders, la fable, elle se construit sous forme d'inversion. Le mécanisme de la fable, c'est profondément un mécanisme d'inversion. Et le moment de cette inversion dans La Molucie, c'est le moment où Anders, qui est rejeté de l'Allemagne, que l'Allemagne fait d'Anders un étranger, fait d'Anders un apatride. Et du coup, Anders, par la fiction, fait de l'Allemagne elle-même un pays étranger. Et ce pays étranger, c'est La Molucie. Et en faisant de l'Allemagne un pays étranger, il arrive à en décrypter les mécanismes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, pas rajouter, mais juste prolonger. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est une littérature, parce que c'est vraiment de la littérature. C'est-à-dire que, par rapport à... Si on a insisté au début de la préface sur l'idée que c'était un roman, c'est parce qu'au début, on a eu du mal à convaincre les gens de publier ce roman. Parce que les gens disaient, oui, Anders, nous, ça nous intéresse parce qu'on veut publier de la critique de la technique, on veut publier des choses comme ça, ce qui est passionnant, hein. Moi, j'adore ça. Mais en même temps, leur idée, c'était ça, c'est un truc marginal dans son œuvre. Et c'est de la littérature didactique. Et cette formule littérature didactique, c'était compliqué. Parce que y a des éditeurs à qui on a eu affaire, qui sont des gens qu'on estime beaucoup par ailleurs, mais qui ont une idée de la littérature selon laquelle la littérature, ça ne devrait pas être un truc didactique. C'est, l'idée que la littérature, ce serait didactique, ça veut dire qu'on instrumentaliserait la littérature, qu'on en ferait un moyen juste pour transmettre un contenu qui serait déjà totalement constitué auparavant, mm-hmm. et qu'il s'agirait juste de transmettre à travers un médium littéraire. Oui. Et du coup, il y a eu un braquage de plusieurs personnes qui disaient « mais on ne peut pas publier ça, la littérature didactique, ce n'est pas ça ». C'est comme si la littérature devait être conçue comme une sorte d'aventure où on se lance sans savoir où on va. Mais pourquoi pas, hein, mais voilà, leur idée de la littérature, c'était que c'était tout sauf une littérature didactique, que la littérature, c'était une aventure, mais pas quelque chose qui devait penser. Et en fait, ce qu'arrive à faire Anders, c'est de la littérature qui pense. Mm-hmm. Et ce que disait Périne, c'est qu'effectivement, c'est pas de la... C'est une littérature qui employait cette expression de fabuliste réaliste qu'Anders emploie à propos de Kafka dans le livre sur Kafka. Et en fait, l'idée, c'est de dire que être réaliste, c'est pas forcément être naturaliste. C'est pas forcément raconter, effectivement, la montée du nazisme avec une dimension... on pourrait dire documentaire d'une certaine façon. Là, l'idée, c'est de dire, bon, je vais parler de ça, mais pour en parler avec une certaine distance, je vais construire au lieu de parler de l'Allemagne, je vais inventer un pays qui s'appelle la Maulussie, qui est une sorte de précipité de tout ce qui s'est passé en Allemagne. L'histoire de la Maulussie, il y a eu une sorte de monarque esthète, qui est une sorte de Louis Frédéric, de Bavière. Il y a eu des militaristes. Il y a eu toute l'histoire de l'Allemagne. Et puis on arrive à ce moment où il y a Bourou, qui est une sorte de Hitler. Mm-hmm. Donc il y a eu toute l'histoire de l'Allemagne. Et quelque part, la Maulussie, c'est une sorte d'analogone de l'Allemagne. Et du coup, ça permet de parler de l'Allemagne. Et ça permet d'en parler, finalement, d'une façon... sans avoir le nez collé aux événements.
Distancé,
et en fait, ne pas avoir le nez collé aux événements, ça permet de dire la vérité aussi. Mmh, mais ça permet de dire la vérité avec une espèce de distance, quoi, d'une certaine façon. Et ça contribue à créer une forme de vérité. Quoi.
C'est le processus de la fable, en fait, tout à fait.
Si vous êtes d'accord, je vais vous lire un extrait métapoétique d'Anders où il décrit ce qu'est une fable. Et je pense que c'est le mieux pour rendre les choses plus claires.
Oui, juste avant, parce qu'on emploie des adjectifs un peu métapoétiques ou métapolitiques. En fait, métapolitique, c'est pour dire que, en fait, ça parle de politique, ces livres. Ce livre, il parle de politique, mais l'idée, il ne tient pas à un discours partisan, même s'il est quand même quelque part partisan d'une certaine gauche, radicale même. Mais en même temps, l'idée, c'est de tenir un discours sur la politique. Et métapoétique, c'est de dire il tient un discours aussi sur ce que c'est que faire de la littérature. Non, vas-y, vas-y. Okay.
Donc, une fable sur ce qu'est une fable. C'est Holo qui parle, pas moi. Donc, Holo. C'est pénible de devoir expliquer des fables et des poèmes et des proverbes, déclara-t-il. Ce sont des explications. Et d'un meilleur genre que les autres, car ce sont en même temps des avertissements. S'il faut les traduire, c'est la preuve qu'ils sont de mauvaise qualité. Et s'ils sont traduits, ils ont l'air d'être ordinaires et n'ont plus d'effet. Parce que la fable est un microscope. Yegusa, qui modifie tout ce qu'il montre et qui présente de fausses dimensions. Holo, pas du tout. Où est-il écrit que notre œil démuni voit les bonnes dimensions des choses ? Vois-tu les bactéries à leur juste dimension quand tu les regardes à l'œil nu ? À la dimension qui correspond à leur importance ? C'est à travers un microscope que tu les vois bien. Yegusa n'avait jamais réfléchi à cela. Tu dirais alors que le microscope ne modifie pas et ne déforme pas la réalité ? Holo, c'est avant tout l'œil démuni qui modifie et déforme. Il déforme le danger réel des bactéries et constitue un obstacle dans le combat réel que l'on mène contre elles. L'appareil transforme cette situation. Il rectifie et rend visiblement atteignable ce que nous voulons concrètement traiter et combattre. Est-ce encore une fable ? Demanda Yegusa. C'est la définition de la fable, conclut Holo. Car les fables ne sont pas des images, ce sont des appareils. Donc, en fait, pour reprendre un peu le passage, moi, ce que je comprends sous littérature didactique, c'est pas une littérature qui expose des thèses toutes faites. Au contraire, c'est une littérature qui pousse à avoir un regard critique sur le monde. Et ce regard critique, en fait, il pose pas des explications telles quelles. Il propose des instruments de décryptage de la réalité. Et c'est pour ça, c'est en ça que c'est réaliste, parce que c'est la fable, c'est une sorte d'instrument qui permet de décrypter la réalité et qui permet de l'interpréter. Et cette interprétation, elle est toujours en quelque sorte ouverte. C'est-à-dire que les fables d'Anders, elles ont plusieurs sens. Enfin, nous, on a traduit ces fables, il y en a qu'on voit toujours pas exactement quel est le sens de cette fable. Et je pense que c'est exactement ce qui est voulu. Il n'y a pas une morale à la fin des fables d'Anders. Donc c'est pour ça que c'est un fabuliste particulier, Anders. Il propose pas de morale toute faite. C'est au lecteur de réfléchir à cette fable et d'interpréter l'histoire à partir de cette fable. Enfin, je sais pas si tu es d'accord.
Il nous implique. Parce que je disais tout à l'heure que la transmission, elle arrivait jusqu'à nous. Et du coup, il nous laisse nous débrouiller aussi avec les morales des fables, hein, d'une certaine façon. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que je voulais dire que par rapport à cette histoire de littérature didactique, c'est que en fait, ça sort pas juste de la tête d'Anders comme ça. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui l'a vraiment fasciné. Et c'est aussi d'une certaine façon une des raisons pour lesquelles il figure aussi dans l'histoire de la littérature, Anders, c'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas juste l'élève de Husserl, l'élève de Heidegger, c'est aussi quelqu'un qui a été fasciné par Alfred Döblin. Et en fait, oui. il a repris d'une certaine façon ce qu'on peut appeler la poétique d'Alfred Döblin, c'est-à-dire la conception du roman de Döblin. Je voulais juste vous lire un petit passage de Döblin, justement, et qu'on avait mis dans la préface. Et Döblin, voilà ce qu'il dit. Il dit « À partir du moment où le roman conquiert une fonction nouvelle de révélation et de représentation scientifique de la réalité, l'auteur devient une espèce particulière de savant. Il est un alliage particulier de psychologues, philosophes, observateurs de la société. Les écrivains et les poètes, encore une fois, sont une espèce particulière de savants, et c'est pourquoi ils se tiennent fermement sur la terre. Pour des raisons liées à leur science, ils ont davantage accès à la réalité et accès à davantage de réalité que beaucoup d'autres. » Et c'est ça, l'idée, c'est pas que la littérature, ça sert à transmettre une doctrine déjà toute construite d'avance, c'est que c'est juste, comme disait Perrine dans le passage qu'elle lisait, ça peut, un roman, enfin une fable ou un roman, parce que le roman, il a statut d'une fable aussi, ça peut servir comme un microscope, comme un télescope, ça sert à observer la réalité, et d'une certaine façon, le poète, comme dit Anders, a le statut d'un savant, quelque part. L'idée, c'est juste d'utiliser la littérature pour observer la réalité. Et c'est ça, le réalisme dont on parlait. Et c'est pour ça que cette littérature didactique, elle n'a rien d'infamant. Ça ravale pas la littérature juste à un médium, quoi. Au contraire, ça donne à la littérature un rang équivalent à ce que pourrait être la philosophie, ce que pourrait être la science, etc. quoi.
C'est pas un sous-genre, dans ce cas-là, bien sûr.
Et comme dirait Döblin, c'est quoi le titre ? L'art n'est pas libre, il agit. Ça pourrait vraiment être un slogan d'Anders aussi.
Parce que cette formule-là, Döblin explique ça en disant qu'au 19e siècle, on dit aux artistes, mais vous êtes libre, faites ce que vous voulez, tant que ça gêne personne. Mais lui, ce qu'il dit, au contraire, c'est non, l'art n'est pas libre, il agit, il veut vous emmerder, quoi. C'est autre chose.
D'accord. Dans cette série de dialogues, donc je disais, moi, je évidemment, on pense au dialogue, enfin à Platon et au processus du dialogue socratique. Hein, finalement, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement dans le rapport entre Socrate qui serait holo, celui qui sait, celui qui a déjà, j'allais dire, du métier en tant que prisonnier et que penseur, donc qui fait par un processus. Ce qu'on appelle couramment la maïeutique, bon bref, en tout cas il a cette fonction d'éveiller l'autre à une certaine vérité et lui mettre un peu les points sur les i, lui faire perdre ses illusions, l'illusion de la liberté, l'illusion de l'indépendance de la pensée. Petit à petit, Holo en vient à, j'allais dire de manière presque cynique finalement, à ouvrir les yeux de Yegusa, à lui faire perdre ses illusions. Donc je disais, c'est un petit peu ça. Et ce qui revient très régulièrement, c'est l'idée que, c'est autour du mensonge et de la vérité, je pense que vous allez y revenir, parce que c'est un des points très très importants de la catacombe. Et il y a surtout l'idée que finalement, quand on croit penser librement, on est libre de penser ce qu'on nous a inculqué. Ça, c'est très important. Et sans arrêt, Olo, il y a une manière de présenter cette chose-là, ce rapport qu'il a avec la vérité et la dénonciation des illusions. Il dit toujours à Yegusa, où est-il écrit que, hein, où est-il écrit que ta pensée, que ce que tu viens de dire, vient de toi. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que d'où tu tiens ça? Et petit à petit, il lui fait comprendre que finalement, nous autres, tout le monde, notre pensée est très souvent une manière qu'on croit libre, qu'on croit exprimer librement, a été fabriquée par ceux que cette pensée va servir finalement. Et ça, c'est quelque chose qui revient très, très régulièrement. J'ai été très, très sensible à cet aspect parce qu'il y a plusieurs fables qui sont là pour illustrer cette chose-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez...
Bah, en fait, merci pour votre remarque parce que c'est exactement là où on voulait arriver. C'est-à-dire cette idée, enfin, que le roman d'Anders, enfin, ce roman qui est La Catacombe de Molucci, c'est fondamentalement un roman sur le mensonge en politique, le mensonge et la vérité en politique. Et la question, votre question sur la libre expression des idées, qu'est-ce que ça veut dire être libre d'exprimer ses idées? En fait, elle est liée à cette question du mensonge en politique. On va peut-être revenir un petit peu sur cette question du mensonge en politique et pour pouvoir mieux expliquer après justement cette question de est-ce qu'on est libre d'exprimer ses pensées et ces pensées qu'on est libre d'exprimer sont-elles elles-mêmes libres? Voilà. Et en fait, ce thème de la liberté d'expression ou de la liberté des idées, il est vraiment lié dans ce roman avec l'analyse du fascisme et surtout du régime hitlérien. C'est-à-dire que pour Anders, le nazisme et le régime d'Hitler, c'est fondamentalement un régime basé sur le mensonge. Est-ce que tu veux en parler, Christophe, peut-être parce que... Non.
C'est compliqué tout ça parce que c'est un roman que Anders commence à écrire en 1933 et que globalement dans la version qu'on connaît est achevé en 1938 et en fait la question c'est qu'est-ce que ça veut dire écrire sur le nazisme? Parce que quand on commence à écrire sur le nazisme en 1933, il ne faut pas qu'on s'attende à trouver des choses qu'on pourrait trouver dans un roman écrit sur le nazisme après 1945. C'est-à-dire que là, disons, Anders, c'est compliqué parce qu'il y a toute une temporalité. Et là, quand il écrit sur la catacombe de Molucci, il écrit sur le nazisme en tant que variante du fascisme. Et le nazisme en tant que variante du fascisme, c'est quelque chose que lui appréhende à travers la question du mensonge. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que fabriquer du mensonge et fonder une politique sur le mensonge. Et il n'est pas le seul. On cite dans la préface toute une tradition comme ça de gens qui, justement, abordent le fascisme à travers la catégorie du mensonge. Et ce n'est pas par hasard qu'il fait ça. C'est-à-dire que Anders, c'est quelqu'un qui a été... qui s'est très tôt intéressé à cette affaire. C'était pour les gens qui faisaient de la philosophie politique à l'époque, les gens ils s'intéressaient à des questions genre quel est le rapport de Marx à Hegel, des choses comme ça. Anders, lui, il a carrément mis les mains dans le cambouis. Il s'est dit et pourquoi on s'intéresserait pas à ce qui est dans Mein Kampf? Et avec Arendt, ils ont organisé dès 1932. À l'automne 1932, ils ont organisé un séminaire qui se tenait planqué au fond d'un café, autour de Mein Kampf. Et ils se sont dit, faire de la philosophie politique aujourd'hui, c'est aller regarder cette cochonnerie qui est Mein Kampf. Et dans Mein Kampf, on peut lire...
Tu veux dire l'extrait de Mein Kampf?
Non, j'ai du mal. Mais dans Mein Kampf, on peut lire un passage, mais qui est, en même temps, il est intéressant, ce passage. C'est un passage qui raconte, grosso modo, que tout le monde ment, et que justement faire de la politique en mentant, en sortant d'énormes mensonges, finalement il n'y a rien de choquant là-dedans. C'est faire de la... Je vais vous lire le passage, vous allez voir. C'est pas parce que j'ai envie de dire un truc, c'est autre chose. C'est parce que vous allez voir, c'est vraiment étonnant. Voilà, c'est ça. C'est un passage de Mein Kampf qui dit « Du plus grand des mensonges, on croit toujours une certaine partie. » La grande masse du peuple laisse en effet plus facile la grande masse du peuple laisse en effet plus facilement corrompre les fibres les plus profondes de son cœur qu'elle ne se lancera volontairement et consciemment dans le mal. Aussi, dans la simplicité primitive de ses sentiments, sera-t-elle plus facilement victime d'un grand mensonge que d'un petit ? Il y a une théorie, c'est la théorie du gros mensonge.
Du big lie.
Plus un mensonge est gros, mieux il passe. Mais alors, il vous explique... Monsieur Hitler explique pourquoi un gros mensonge passe plus mieux qu'un petit mensonge. Et alors, voilà, il parle de justement des gens à qui il sert des gros mensonges. Et ces gens, il dit, cette partie de l'humanité, elle ne connaît elle-même en général que de petits mensonges, tandis qu'elle aurait trop de honte à en commettre de grands. Grosso modo, ça veut dire qu'on est tous des menteurs. Nous, on est juste des menteurs qui sortons des mensonges plus gros. Et il poursuit en disant, elle ne pourra pas concevoir une telle fausseté et elle ne pourra pas croire, même chez d'autres, à la possibilité de ces fausses interprétations, d'une impudence inouïe. Même si on l'éclaire, elle doutera, hésitera longtemps, et tout du moins, elle admettra encore pour vrai une explication quelconque qui lui aura été proposée. Qu'il reste toujours quelque chose des plus impudents mensonges, c'est un fait que les plus grands artistes en tromperie et que les associations de trompeurs ne connaissent que trop bien et qu'ils emploient dès lors bassement.
Voilà. Oui, et celui qui est trompé, c'est celui, il le dit à un moment un petit peu plus loin, celui qui est trompé, c'est celui qui rend le mensonge vrai. C'est lui qui va donner. Il y a tout un truc d'ailleurs, il dit la notion de vérité et de véracité. Pour le menteur, la vérité, ça n'existe pas. Il a juste besoin de la véracité. Ça, je trouvais ça très profond, la distinction, le distinguo entre vérité et véracité. Tout est dit là, dans cette distinction, il me semble.
Pour éclairer peut-être un petit peu la question, en fait, ce que Anders décrit dans le roman et ce qu'il voit de fondamentalement nouveau dans le fascisme, dans cette théorie du mensonge, c'est que le fascisme utilise des mensonges les plus gros possibles. C'est-à-dire que plus les mensonges sont gros, plus la population va y croire. C'est ça le populisme fasciste, en fait. C'est de mentir le plus grossièrement possible pour que le mensonge n'ait plus besoin de la vérité comme une sorte d'alibi. En fait, dans le fascisme, on est face à un mensonge qui est totalement décomplexé et qui n'a même plus besoin de se faire passer pour vrai. En fait, habituellement, dans l'histoire du mensonge, le mensonge avait besoin de se faire passer pour vrai pour pouvoir avoir une force. Et là, on est face à un régime fasciste. Enfin, le fasciste, c'est un régime qui va utiliser le mensonge de manière tellement décomplexée qu'il n'a même plus besoin de la vérité pour avoir une certaine force. En fait, le mensonge acquiert une force par lui-même, par sa taille. Et du coup, la grosse question politique que va poser Anders dans ce livre, c'est finalement... comment agir, comment résister? Parce que jusqu'à présent, la politique et la philosophie utilisaient la vérité comme une arme contre le mensonge. Or ici, le mensonge est totalement dédouané de la liberté, totalement désarticulé de son appui, décomplexé, il n'a plus besoin de s'appuyer sur la liberté. Et donc, si la vérité ne peut même plus être une contre-force contre le mensonge, comment on combat, comment on lutte, comment on résiste? C'est-à-dire que si on ne peut plus dire face à un mensonge énorme ou face à une thèse complotiste, si on ne peut même plus opposer à ce mensonge énorme une vérité, et que la vérité n'a même plus de poids politique, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous reste comme arme, comme arme contre ce mensonge? Et en fait, toute la question qui est posée dès le premier poème de la Molucie, le poème de la statue de la vérité déguisée en mensonge, c'est que en fait, la lutte, elle va se transformer en une lutte sur la manière de présenter la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, la lutte, la vérité va devoir elle aussi se travestir. Elle va devoir se créer ses slogans. Elle va devoir se donner une apparence de fiction ou une apparence rhétorique spécifique pour pouvoir acquérir un poids, un contrepoids face à ce mensonge décomplexé.
Il dit qu'elle devra mentir davantage et crier plus fort.
Crier plus fort, crier plus fort. Et crier plus fort, ça dépend de quelle manière. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être moins vraie, mais ça veut dire l'opposant politique ne doit pas nécessairement hésiter à maquiller la vérité sous forme de fiction, sous forme de slogan, persuasive plus que convaincante pour pouvoir atteindre son lecteur, pouvoir atteindre son public. Et donc, en fait, ce que fait Anders, c'est redonner poids à une certaine théâtralité de la politique. C'est-à-dire que, finalement, celui qui se bat, il ne se bat pas que pour le vrai. Il se bat aussi en tant qu'acteur dans un jeu politique où, finalement, le jeu politique est pétri entièrement de mensonges, de rôles et de rôles fictionnels. Voilà, je sais pas si.
L'idée, c'est qu'il faut, il faut renoncer à l'idée qui, selon laquelle juste dire la vérité ferait s'effondrer le mensonge. C'est, ça serait trop simple. Et donc, l'idée, c'est justement de réfléchir à la façon dont on peut faire circuler la vérité dans un monde qui n'est substantiellement que mensonge, quoi. Moi, je me proposais de lire le premier texte, le texte sur lequel s'ouvre le roman. En fait, c'est un poème qui s'appelle Épigraphe gravée sous la statue de la vérité travestie en mensonge, érigée après la libération de la Molucie. Et voilà ce que raconte ce poème. Il dit: puisque chaque mensonge criait, moi aussi je suis vrai, et que seul celui qui mentait était écouté, mais pas moi. J'ai fait taire ma suffisance, c'est la vie. J'ai enfin voulu tourner et me suis exercé la nuit jusqu'à ce que je sache qu'aucun mensonge ne mentait comme moi. Puis je me glissais la nuit dans l'essaim des mensonges, traversais notre ville en braillant avec eux, bras dessus, bras dessous, acolyte méconnaissable, et finissais par crier, pleine de dégoût certes, mais bientôt pleine de colère, puis pleine du courage de la vérité. Écoutez, moi aussi je suis vrai. Je suis là devant vous, dans cet accoutrement que personne aujourd'hui et plus tard ne l'oublie. C'est seulement ainsi, la bouche barbouillée, criant la vérité, que j'ai trouvé votre oreille. Et c'est seulement ainsi que j'ai fini par imposer mon vieux slogan « La vérité vous rend libre ».
Et peut-être pour continuer sur votre question, sur justement la description que fait Anders des mécanismes fascistes de transmission du mensonge, en fait, et de transmission de la propagande.
La langue, alors, justement.
La question de la novlangue. Parce que, en fait, oui, le fascisme, il impose une langue et il impose...
Oui, c'est remarquable ce qui est écrit là.
Et il impose un certain discours. Et il y a de nombreuses fables qui montrent que, en fait...
Il y a des décrets où on décide que seul le substantif existe et l'adjectif. Mais après, tous les liants de la langue, tous les donc, les à cause de, les parce que, les ainsi, sont absolument interdits. Donc on ne profère plus rien, on n'avance plus rien, on ne fait que prononcer des mots et, auxquels on ajoute un adjectif que le pouvoir appelle un fortifiant. C'est plus un adjectif, c'est un fortifiant. Et le fortifiant suprême, c'est Molucien. Hein. Donc tout ce que voilà, tous les substantifs peuvent être ensuite accompagnés.
La dérive nationaliste de la langue. Quoi, où le seul adjectif qui est autorisé finalement, c'est l'adjectif Molucien.
Molucien.
Ça pourrait être allemand ou français. Hein, mais... et...
Ce qui est fou, c'est que ça, du coup, ça jette un discrédit sur la syntaxe. Hein.
Oui, c'est-à-dire que sur l'articulation de la pensée.
La nomination, oui. Et la nomination avec l'adjectif Molucien en plus, c'est la seule chose qu'on a le droit de dire. Quoi. C'est, la syntaxe, ça sent le raisonnement et donc c'est pas bon. Quoi. Donc c'est à bannir. Quoi. Il faut juste nommer la chose et lui ajouter l'adjectif, le fortifiant Molucien. Quoi.
Ouais, c'est ça, oui.
Et peut-être, je ne sais pas, puisqu'on est bientôt en période électorale, il y a une fable molucienne qui m'a vraiment frappée. C'est la fable où Bourou, donc Hitler, va chercher à légitimer son coup d'État à travers le vote à travers le vote des citoyens. Et la question, c'est comment présenter un dictateur dans une élection soi-disant démocratique. Et je vais peut-être lire le passage. Il est où ce passage?
Page 200.
Vous voyez
28e jour.
Ah, ben bah voilà, vous l'avez
aussi. Vous connaissez mieux que nous, le livre.
Non, peut-être pas mieux. Je sais qu'il y a un passage qui concerne cette chose-là.
Ouais.
Où on voit les... Alors, je sais plus quoi. Les SPDIS, ils appellent ça, donc les gens. Les sociodèmes, quoi, qui disent après tout, dans la mesure où c'est un processus démocratique, ça ne peut être que vrai. Et bon, en gros, il faut en passer par là pour que les gens se rendent compte. Enfin, c'est ce discours qu'on entend aussi aujourd'hui, hein, qui minore, si vous voulez, la possibilité pour le fascisme de passer par la phase électorale, quoi.
Donc je vous lis le petit passage où Bourou, le dictateur, va légitimer son propre coup d'État par une élection. Donc, alors que Bourou était au pouvoir depuis un certain temps, il eut envie de prendre le pouvoir une seconde fois. Il souhaitait recevoir, cette fois-ci en cadeau, ce qui était déjà indubitablement à lui et se faire élire par ses sujets. Ce vœu était tout sauf absurde. Il comptait sur le fait qu'une fois élu à l'unanimité, il gagnerait une certaine réputation démocratique à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. On n'élit pas celui qu'on aime, on aime celui qu'on a élu, disait-il pour justifier le choix de cette élection populaire dans le cercle de ses collaborateurs. Quelques-uns dans sa camarilla n'étaient pas d'accord. Personne n'oubliera jamais le contexte de cette élection ni les moyens de pression qu'il va nous falloir employer, firent-ils remarquer. Même devenu très vieux, chacun de tes électeurs se souviendra encore sous quelle pression il a voté pour toi. Bourou ne laissait pas apparaître la moindre irritation. Le comment et les pourquoi sont invisibles. Seul l'effet de l'élection sera visible. On ne se souvient que du visible. Laissez-moi faire et ce sera très visible. Nul ne pouvait contester l'autorité de Bourou en ce qui concerne les techniques de séduction. Et nous aussi, nous devons l'admirer, même si ce n'est qu'avec répugnance. Mais entre quoi et quoi les électeurs devront-ils choisir ? Demandèrent-ils. Recourir au mot « entre » est hors de question. Mais le choix inclut obligatoirement un « ou ». Obligatoirement ? Demanda Bourou. Depuis quand Bourou a-t-il des obligations ? Ils se turent honteusement. Puis il déclara. On remplacera le « ou » par « et », car « et » est le mot le plus fort. La synthèse est l'allié la plus sûre de la terreur. Le lendemain, sur tous les murs et toutes les palissades de la ville, apparurent des affiches électorales. Le mot « et » y était imprimé en caractères plus grands et plus gras. 4 affiches dominaient. Pour Bourou et pour la paix. Pour Bourou et pour la Molucie. Pour Bourou et pour les parias. Pour Bourou et pour la liberté. En procédant ainsi, Bourou avait inclus l'alternative dans l'objet même de l'élection. Qui optait contre Bourou optait en même temps contre la paix. Qui se prononçait contre Bourou se prononçait contre la liberté. Qui votait contre Bourou votait contre la Molucie. Qui votait contre Bourou votait contre les parias. Mais qui optait pour les parias, la Molucie, la liberté et la paix incluait Bourou dans son choix, qu'il le voulût ou non. Il n'était pas étonnant que le nombre de voix ainsi obtenues par Bourou atteignît quasiment le nombre d'électeurs moluciens inscrits. Donc, je ne sais pas, pour moi, ce passage, il parle de lui-même. On est dans des processus d'utilisation de la langue et de création d'une forme de novlangue, d'utilisation de ce simple mot de liaison « et » plutôt que le mot de liaison « ou » pour manipuler, en quelque sorte, les électeurs et leur faire croire que voter pour un dictateur, c'est voter pour la paix, pour la justice sociale, voilà ce qu'on peut voir
Mais là, on voit bien tout l'intérêt d'avoir construit cet analogone de l'Allemagne qui est la Molucie, parce que s'il s'agissait de raconter ce qui se passait en Allemagne à l'époque, j'imagine qu'Anders, en tant que juif allemand en exil de gauche, à part de la rage et de la colère, il aurait pas pu faire autrement que les autres personnes qui ont écrit sous la rage et la colère. Et en fait, là, le fait de construire un analogone comme ça, ça fait qu'on peut en parler de façon analytique et garder une espèce de sang-froid analytique et raconter ça, quoi. Au lieu de tout de suite se péter un câble en racontant ce qui se passe réellement, quoi.
Alors, on a encore un peu de temps ou...
Je sais pas, j'ai pas.
Ouais. Parce qu'on fait quoi ? On parle un peu de la philo ou alors on reste sur le...
Je sais pas, parce que vous avez...
Parce qu'on avait pensé aussi vous montrer que, en fait, ce roman, comme disait Christophe, c'est un roman qui parle de l'Allemagne, mais à un certain moment de l'histoire de l'Allemagne, parce qu'il a été écrit entre 33 et entre le début des années 30 et 1938. Et donc, il parle de la montée du fascisme, mais ce dont il ne parle pas, ce roman, c'est de la Shoah et de la question de l'extermination et des camps. Alors, ce qui est fascinant dans ce livre, c'est qu'il y a bien un camp et un camp d'extermination qui s'appelle le Silo. Mais en fait, ce camp a été conçu par Anders avant l'existence des camps d'extermination allemands. Et donc,
et en même temps, ce camp n'est pas un camp d'extermination allemand, c'est encore autre chose.
C'est encore autre chose, parce que les prisonniers qui sont enfermés dans ce camp qui est le Silo, ils sont exterminés, mais pour des raisons économiques. C'est-à-dire que on extermine des travailleurs, on extermine des esclaves parce que le trop plein d'esclaves ferait réduire le salaire des travailleurs moluciens. Et donc évidemment c'est une fable, donc une sorte, pour Anders, une exagération en direction d'une sorte de questionnement politique et de politique économique. Et donc, ce qu'on voulait juste souligner sur cette question, c'est que l'endroit où Anders va vraiment penser la question de l'extermination, la question des camps, c'est pas la Molucie, c'est véritablement la poésie, et notamment la poésie de Mage Judéité. Et c'est vraiment...
Ouais, vas-y. Ah, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toute une histoire, c'est-à-dire que là, la catacombe de Molucie, il parle du nazisme, comme on peut en parler dans les années 30. Et après, il va écrire sur la Shoah aussi. Mais il va écrire sur la Shoah depuis les États-Unis. Et il va écrire sur la Shoah, s'il utilise la poésie, c'est parce que pour lui, la poésie, c'est d'abord une sorte de technique d'imagination. C'est une sorte d'exercice d'imagination parce que Anders, c'est quelqu'un, il parle beaucoup de ça dans les obsolescences, de l'importance de l'imagination, de la nécessité de développer son imagination. C'est un philosophe qui compte beaucoup sur l'imagination. Et en fait, là, les poèmes, il a écrit ça aux États-Unis, il a publié ça dans les revues de l'immigration juive allemande aux États-Unis. Et en fait, ce sont des poèmes dans lesquels il essaye d'imaginer le vécu des Juifs qui sont traqués, des poèmes dans lesquels il essaye d'imaginer, d'après ce qu'il lit dans les journaux, ce que c'est que la Shoah part mal, des poèmes dans lesquels il essaye d'imaginer des camps d'extermination. Mais ce qui est fou, c'est que ça soit dans des formes poétiques que ça prenne place, quoi. Mais parce que ces poèmes, ce sont des poèmes qui ont un statut un peu particulier. Puis il y a un texte qu'il a écrit sur la poésie qui est à la fin des journaux d'exil et du retour, où il dit qu'après 45, sa muse est morte. C'est-à-dire que vu ce qu'il a fait faire à sa muse, on ne peut pas s'étonner qu'elle soit morte, quoi, d'une certaine façon. Mais voilà, je sais pas, peut-être l'idée c'était peut-être de lire un poème.
Ouais, moi je vais juste lire un poème dans lequel, en fait, ce qui a été particulièrement traumatisant pour Anders, c'était d'échapper à la Shoah. En fait, son grand traumatisme, c'est d'avoir vu des amis à lui mourir et ne pas revenir, ne pas pouvoir émigrer. Et il a une sorte de culpabilité d'avoir échappé à la Shoah et de s'en être sorti.
Facile.
Voilà. Et là, il écrit un poème qui s'appelle « Au meurtrier de mon ami L ». Donc, il s'adresse directement à ce meurtrier d'un de ses amis. Donc, « Au meurtrier de mon ami L ». Nous ne nous connaissons pas. Pourtant, tu ne te débarrasseras jamais de moi. Un lien attache mon chagrin à ton coup de feu. Le chagrin m'a parlé lentement. Écoute, dans le chagrin, ce qu'il m'a dit. Et si un coup venait à battre, il y aura encore celui qui vient après toi. Et si celui-là se faisait descendre à son tour, resterait encore l'homme qui vient après lui. Le dernier de la colonne est un homme, celui pour qui j'ai écrit. Toi, le dernier homme, totalement inconnu, tu ne te débarrasseras pas de moi non plus. Un lien attache mon chagrin à tous tes coups de feu. » Donc c'est un poème de 47. Enfin, moi, je trouve qu'il est... Enfin, il parle de lui-même.
Et puis, il y a d'autres textes où l'idée, c'est d'imaginer ce que les gens vivent, quoi. Mais de façon étonnante, quoi, même en se mettant à la place d'enfants, voilà, qui sont ça. Déportés, en se mettant à la place de gens qui sont abattus dans des bois dans le cadre de la Shoah par balle, ou en imaginant même la résistance dans les camps d'extermination, comme ça a pu avoir lieu, quoi.
Moi, ce que j'aime bien comme concept, c'est le concept de compréhension fragile. En fait, il y a des événements pour Anders qui dépassent le cadre de notre imagination, le cadre de notre compréhension. Et la poésie, c'est un moyen d'essayer d'exercer son imagination, de l'élargir un petit peu pour avoir cette compréhension ténue, fragile de ce qui a pu se passer et qui est juste au-delà de tout ce qu'on peut comprendre si on l'a pas vécu. Il y a que la poésie et que la fiction qui peut tenter d'avoir cette compréhension fragile.
C'est le recours à l'imaginaire, donc. Mmh. Oui.
Mais c'est important de parler de ces textes-là, parce qu'en fait, Anders, il a eu son entrée en France comme ça, avec les textes de l'obsolescence de l'homme, en tant qu'il a été un peu coopté à travers l'idée de la critique de la technique. Mais en fait, c'est pas que ça. Parce qu'après, le problème, c'est que ça a créé un préjugé sur Anders en tant que littérateur, en tant qu'écrivain.
Oui.
Mais c'est compliqué parce que, comme vous disiez, son roman, c'est un ovni. Mais il invente une façon il invente un roman qui pense, et qui pense d'une façon étonnante. Et quand il fait de la poésie, c'est une poésie bien particulière. C'est-à-dire que ça, c'est pas du tout, ça correspond pas du tout à l'idée qu'on peut se faire de la poésie.
Il y a aucun lyrisme,
c'est
quasiment.
Juste,
il y a pas de
l'horreur, carrément.
Pas de, pas de lyrisme.
Ah non, absolument pas.
Zéro lyrisme.
Ouais, ouais. Non, c'est vraiment des poèmes. Même dans la catacombe, il y a de nombreux poèmes qui sont insérés. Et c'est des poèmes très racontés. C'est pour ça qu'en tant que traducteur, on n'a pas choisi une forme versifiée. On a vraiment choisi une forme de prose. Enfin, c'est des sortes de poèmes en prose très, très descriptifs. Et je pense que... Enfin, je ne sais pas. C'est pour défendre un peu notre idée de traduction de ces poèmes. Mais ça, notre idée, c'était de les traduire de la manière la plus prosaïque possible pour justement éviter ce lyrisme qui contrevenait un petit peu...
C'est de la poésie narrative, en général. Il n'y a pas de parataxe, tout, c'est vraiment de la poésie narrative. Ça, c'est des phrases après des phrases. Quoi.
Très bien. Est-ce qu'on peut, peut-être pour terminer, avant de donner la parole à l'auditoire, est-ce qu'on peut tendre un fil, tendre quelque chose qui nous amène un petit peu vers le développement de la pensée de Günther Anders à travers la pièce maîtresse, quand même, tout de même, de ce qu'il a fait connaître et ce qui est... l'œuvre inépuisable, en tout cas à mon sens, qui s'appelle L'obsolescence de l'homme. Je voudrais peut-être que vous mettiez en exergue les passages dans la catacombe qui peuvent déjà, où on sent les prémices de la pensée qui sera ensuite développée dans la catacombe, dans l'obsolescence de l'homme. Et notamment, déjà, il y a quelque chose autour de ce qu'il a appelé ensuite, qui est devenu presque la marque de fabrique, le décalage prométhéen. C'est-à-dire l'idée que l'homme ne change pas. L'homme est condamné au progrès. Enfin, il s'est lui-même condamné au progrès. Il ne change pratiquement pas. Et seule la technologie, seule sa création, seule ses créations, l'exclut finalement du processus du progrès. Hein, je m'exprime. C'est un peu confus tel que je l'exprime là, mais cette idée du décalage entre ce que nous sommes capables de créer et ce que nous sommes réellement physiologiquement, de manière immuable, je crois. Enfin, moi qui ai lu l'obsolescence et qui ensuite ai lu la catacombe après, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de trouver des moments où on sent la genèse de cette pensée qui va ensuite éclater de manière lumineuse dans l'obsolescence de l'homme.
J'y vais. Bah, merci pour votre question parce qu'on avait envie d'y venir aussi. Ça tombe bien. Effectivement, il y a dans la catacombe des analyses de la modernité que Anders va reprendre dans l'obsolescence de l'homme. Donc on en a parlé un peu avec cette question de la novlangue. Il y a des outils techniques. Enfin, il invente par exemple des roues de lecture qui tournent à l'infini et qui forcent le lecteur à rester scotché à une sorte d'infinité de lecture, un peu comme les médias, comme ce que Anders dira à propos des médias dans l'obsolescence de l'homme tome 1, c'est-à-dire un mode de culture. Entre la fiction et la réalité qui empêche la subjectivité de s'en détacher, qui empêche une distance critique par rapport à cet objet. Qui en fait une addiction. Et il y a, bon ça c'est...
Il n'y a pas trop de technologie en Mauducie.
Non,
c'est un
y
pays.
Il
y a la technologie de base, quoi, mais ce n'est pas un pays hyper industriel. Il y a l'agriculture qui est assez importante. Voilà.
En fait,
il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé, tout ça, mais il y a une sorte de machine qui est comme une sorte de moulin à prière, mais une sorte de moulin politique, comme ça. Et du coup, c'est une machine qui fait que. On commence un texte et on retourne toujours au début et on tourne et on retourne toujours au début et on n'en sort pas. Et cette machine, elle est justement fabriquée et promue par un bourreau, par ce régime dictatorial qui veut justement que les gens tournent sans cesse dans le texte et ne puissent pas en sortir et ne puissent pas du coup avoir un regard extérieur sur le texte et commencer à critiquer. Donc il y a cette machine qui y a pas de médias, il y a des journaux, des trucs comme ça, mais c'est des médias pré-technologique, quoi, d'une certaine façon.
Après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la Molissy que décrit Anders, c'est un pays en voie d'industrialisation. Donc, il y a des passages où une sorte d'économie pré-capitaliste, esclavagiste, passe à une économie industrielle avec des figures de manias et d'industriels qui veulent imposer leur industrialisation.
Oui, c'est ça.
Il y a en même temps, dans ce roman, il y a à la fois des marchands d'esclaves et des débuts de sociétés industrielles.
Oui, il y a un patron, que, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je crois.
Non, ça, c'est, mais c'est le conseiller au prince.
Ah oui, 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 c'est le philosophe, c'est Zarathustra.
C'est Bamba.
Oui, Bamba, c'est ça. Et qui est donc qui est celui qui rationalise à mort, mais au sens propre, voilà. Qui rationalise à mort la production. Et donc, il y a déjà aussi l'idée d'un esclave immuablement tanké dans sa physiologie d'esclave, qui le dit, il dit, ne peut pas faire plus que mourir. Hein, il ne peut pas faire davantage que mourir. Il est condamné à ça. Et en même temps, la productivité, donc moi je l'entends aussi comme un progrès technique, la productivité de Bamba, de son usine, augmente sans arrêt au point qu'à un certain moment, il n'achète plus le corps d'esclave, l'esclave en entier, il achète un pied et une main. Ça suffit. Donc, le reste de l'esclave, le reste de l'être humain ne l'intéresse pas. Ça ne sert à rien. Donc,
voilà. On voit deux économies qui ont du mal à coexister parce que, du coup, l'industriel, il est en train d'expliquer au marchand d'esclaves, j'ai pas besoin de ton esclave. Okay, j'ai besoin que d'une main ou d'un pied. Et donc, il négocie avec le marchand d'esclaves.
Et donc, finalement, ça fait réfléchir sur ce qu'est le salariat, en fait. Enfin, est-ce que c'est pas une forme d'esclavagisme de certaines parties du corps et de certaines fonctionnalités du corps? Voilà, c'est une propriété d'une certaine fonction, une propriété d'un temps de travail.
Et puis la façon dont le travail est décrit, de toute façon, c'est un peu la façon dont le travail sera décrit après dans l'obsolescence. C'est-à-dire que c'est un processus dont les gens ne connaissent pas la fin. Quoi.
Quand on est exclu, déjà, on est exclu du processus alors qu'on le vit dans sa chair. Oui, oui.
Et vraiment, toute la critique du progrès et la critique de la technique, elle est en fait en germe dans la catacombe. Il y a un passage qui est assez précis là-dessus, où il montre vraiment, enfin, où il commence à décrire l'idée que la technique devient le sujet de l'histoire. C'est-à-dire que c'est plus les êtres humains qui font avancer la marche de l'histoire, mais vraiment les objets et les processus industriels auxquels les humains finalement ne font que prendre part comme des objets qui y sont intégrés. Tu veux lire ou
tu dis bien.
Donc là, c'est un dialogue entre May, donc le philosophe escroc dont on parlait tout à l'heure, qui a aussi une allure de Heidegger, une vague allure de Heidegger. De toute façon, les philosophes escrocs chez Anders sont toujours une vague allure de Heidegger. Et donc May essaye d'enseigner quelque chose à son élève qui s'appelle le petit Golo. Donc, pourquoi, demanda le petit Golo à son maître May, pourquoi parles-tu toujours avec un tel mépris de la grandeur que l'homme a indubitablement atteinte? C'est pourtant tout simplement incroyable de voir la façon dont nous nous sommes développés au cours des siècles derniers. Nous ne nous distinguons pas autant que tu le penses de nos ancêtres, loin de là, répondit May. Nous faisons exactement la même chose qu'eux, à savoir du nouveau. Notre progrès, c'est le progrès de nos inventions. Elles se sont empilées les unes sur les autres, mais nous, sommes-nous à la hauteur de nos inventions et de nos produits? Personne ne se distingue autant de son père qu'une machine d'aujourd'hui se distingue d'une machine d'hier. Que cette maxime fût vraie, le petit Golo ne pouvait le nier. Mais il était tout de même étonné. L'homme serait donc moins que ses réalisations? Peut-être est-ce là sa grandeur, qu'il puisse faire plus qu'il n'est lui-même. Et c'est ça, notre histoire? Continua d'interroger le petit Golo, incrédule. C'est l'histoire de nos produits? May secoua la tête. Non, dit-il, ça, c'est seulement le progrès. Donc là, c'est vraiment le décalage prométhéen. C'est-à-dire que finalement, nos produits nous dépassent complètement. Enfin, plutôt la honte prométhéenne. Nos produits sont infiniment plus perfectionnés et ont eu un développement infiniment plus rapide que notre corps ou nos instruments humains que sont les mains, qui finalement ne changeront pas au fil des siècles.
Ça reste à la traîne, presque.
Voilà, c'est ce qu'il dit. Enfin, dans l'obsolescence de l'homme, tome 1, les premières pages sur la honte prométhéenne, il décrit les mains balourdes de l'homme qui sont honteuses face à ces machines beaucoup plus précises et perfectionnées que ses mains n'arrivent même pas à rattraper.
Et ensuite, il faut faire la mise au pas, c'est-à-dire il faut que l'homme se conforme à la machine pour s'augmenter finalement.
Et c'est ça le human engineering. Enfin, voilà.
Et donc là, dans le roman, il y a effectivement l'esprit de la critique qui aura dans les obsolescences, mais là, justement, cet analogone d'Allemagne qui décrit à travers la Maulussie, c'est pas un pays qui est ce dont il parle dans les deux obsolescences. Dans le tome 1, c'est les États-Unis. Dans le tome 2, il parle aussi du Japon. C'est des pays industriels de pointe. Là, c'est encore une autre affaire. Quoi.
La pensée s'est vraiment développée au contact des États-Unis, j'ai l'impression. Hein, c'est vrai. C'est vrai. Il a même travaillé à la chaîne, d'ailleurs, lui-même, en Californie. Bon. Voilà. Peut-être, Judith, on passe à la phase...
Comme ça,
oui, c'est non, c'est tellement.
Merci beaucoup pour cette présentation remarquablement ouvrante pour ceux qui connaissent mal cette partie de l'œuvre, comme moi-même, de Günther Anders. Je n'ai lu que Hiroshima partout, moi. Et justement, de façon rétroactive, à vous écouter, je me pose une question pour tirer le fil de ce que vous avez dit au départ. Finalement, quelle est la dette positive que Anders aurait, non pas à l'égard d'Heidegger, qui pense que la technique, en tant que telle, n'a pas d'essence. L'essence de la technique, c'est de ne pas en avoir pour Heidegger. Ce qui ouvre la dimension de l'aliénation, en effet, qui prépare l'obsolescence de l'homme, d'une certaine façon. Mais la question plus positive que je pourrait et concrète que je voudrais vous poser, c'est quel fil vous pourriez tirer du père d'Anders, qui est psychanalyste, et dans le fond, qu'est-ce qu'il recueille de cet héritage d'avoir un tel père? Je vous pose je vous pose la question parce que...
On en discutait ce matin, nous, c'est parfait.
Voilà, merci.
En fait, son père, il n'est pas psychanalyste, en fait, il est psychologue, et psychologue de l'enfance. Voilà, il a quelques responsabilités dans une mise au point du QI, mais en fait, c'est un psychologue de l'enfance. Et en fait, grosso modo, c'est compliqué, parce que moi, je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais assisté à un colloque à Vienne, et il y avait un monsieur qui participait au colloque qui disait « Moi, je ne travaille pas sur Günther Anders, mais je le connais mieux que vous. » Alors tout le monde disait « Mais pourquoi ?» Et en fait, parce qu'en fait, lui, il était spécialiste du père d'Anders. Et ce monsieur, William Stern, était alors c'était la façon dont on faisait de la psychologie de l'enfance à l'époque, c'est-à-dire qu'il, grosso modo, il observait ses enfants. Il observait Günther et ses deux sœurs. Et grosso modo, Anders, il a grandi sous le regard d'un père psychologue qui consignait dans les journaux tout ce qu'il faisait... et qui trouvait son fils génial et machin, voilà. Donc il a grandi dans ça lui a donné un ego un peu particulier, bon, un ego fort, c'est bien d'avoir un ego fort, mais bon, voilà. Et ce monsieur, donc il est aussi sa doctrine, elle est désignée en Allemagne sous le nom de personnalisme. Alors il y a un personnalisme en France avec Emmanuel Mounier, c'est quelque chose de la revue Esprit des années 30, tout ça. Mais là, grosso modo, c'est la doctrine de William Stern, c'est une sorte de psychologie humaniste, quoi. On réduit pas l'homme à des, enfin l'homme, et en tout cas dans son cas c'est plutôt l'enfant, on réduit pas l'enfant à des mécanismes. Et donc voilà, il y a quelque chose comme ça d'une volonté humaniste, d'un regard humaniste porté sur la psyché, quoi, d'une certaine façon. Et en fait, moi grosso modo, ce que je verrais alors c'est compliqué parce qu'ils ont un rapport très fort, c'est-à-dire que là, par exemple, on est en train de traduire les textes d'anthropologie philosophique d'Anders, et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un texte là qu'on a traduit il y a peu de temps, et en fait l'édition allemande signale que il y a un moment où le père d'Anders a écrit de sa propre main sur l'article de son fils, mais en fait cet auteur dont tu dis que c'est un américain, c'est un anglais en fait. Ce qui est intéressant à travers cette anecdote, c'est que en fait Anders donnait ses textes de jeunesse. Quand il a écrit ça, il devait avoir moins de 30 ans. Il donnait ses livres, ses articles, les articles qui étaient en train d'écrire, il les soumettait à son père aussi. Donc il y avait une sorte de confiance en eux comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a toute une connaissance dans ces textes anthropologiques de la littérature psychologique de l'époque. Donc voilà, son père, voilà ce qui lui doit, quoi, d'une certaine façon. Et il lui doit, donc à mon avis, une forte connaissance en psychologie, ce qui, quand on fait de la phénoménologie à l'époque, est intéressant. Et il lui doit un regard humaniste sur l'humain, quoi. Mais en fait, voilà, c'est grosso modo, c'est ça. Et plus tard, il a écrit une préface pour une réédition de texte de son père. Et c'est quelque chose dans... Il a une façon particulière de parler de ses parents. Il en parle dans Visite dans l'Hadès. Il est hyper insolent, mais en fait, il les adore, quoi. Mais il leur passe rien, quoi. Il a une façon de parler de sa mère qui est assez... Il se moque de sa mère dans Visite dans l'Hadès, parce que sa mère, elle veut toujours... disons, en tant que juive allemande, elle veut toujours paraître plus allemande que les allemandes, et donc elle en fait des tonnes et des tonnes, et lui, il est là, il parle d'elle, il parle d'elle avec une sorte de sourire attendri, comme ça, puis bon, voilà, enfin, grosso modo, il doit énormément à ses parents, quoi, et pas seulement le fait de lui avoir constitué un ego en béton, quoi, mais aussi donc de lui avoir transmis une vision du monde et des connaissances, comme ça. Mais voilà, sinon, sur le rapport entre lui et son père, je crois que c'est un peu ce qu'on peut dire, quoi.
Alors, ils ont été mariés à la fin des années 20, entre 27 et 30, enfin, quelque chose comme ça, 38, 33, ouais, quelque chose comme ça. Et moi, je trouve que leur relation, enfin, c'est une relation de dialogue, et souvent de dialogue qui a perpétué jusqu'à leurs écrits on va dire leurs écrits les plus tardifs, donc jusqu'au dernier texte d'Anders dans les années 80.
Avec une période de froid quand même.
Oui, enfin, en fait. Pas vraiment. Alors, bon, ce qu'il faut pour retracer un peu l'histoire, bon, ils ont été mariés, ils ont écrit des textes ensemble. Ils ont écrit un texte notamment ensemble sur Rilke, sur les élégies de Duino, où ils essayent de faire une sorte de commentaire des élégies de Duino. Ils ont pas mal pensé ensemble. Ils avaient cette activité qu'ils appelaient entre eux Synphilosophien, donc penser ensemble. En allemand, ce serait Mitphilosophien, ça veut dire vraiment penser l'un avec l'autre en dialogue. Et du coup, c'est pour ça que moi, je trouve dans leurs deux œuvres une sorte de dialogue composé. Ils ont émigré l'un après l'autre, parce que Anders a émigré tout de suite en 33, parce qu'il s'est senti extrêmement menacé au moment de l'incendie du Reichstag. Arendt a continué à travailler dans des associations juives quelques mois jusqu'à ce qu'elle émigre, en ramenant ensuite les affaires d'Anders. Ils ont vécu ensemble à Paris, c'est-à-dire que pendant que Arendt travaillait aux origines du totalitarisme, Anders, lui, écrivait la Molussie. Donc il y a vraiment... on va dire que la Molussie, c'est pour Anders, analogiquement, ce que l'origine du totalitarisme est pour Arendt. C'est-à-dire que c'est par ces deux livres qu'ils analysent les mécanismes du fascisme. L'une par l'histoire, l'autre par la fiction. Ensuite, Anders a tout de suite émigré aux États-Unis. Arendt est resté en France plus longtemps avec son deuxième mari, qui n'était pas encore son mari à l'époque, mais avec qui elle était déjà, qui est Heinrich Blücher. Elle a été internée dans un camp à la frontière espagnole, dont elle a pu se libérer. J'avais oublié. Elle a pu s'échapper. Anders, en fait, s'est vraiment préoccupé de fournir des attestations à Arendt et de ce qu'on appelle des affidavits. C'est une manière de... Enfin, c'est une attestation qui prouve qu'on peut avoir du travail aux États-Unis. Donc Anders s'est vraiment occupé de leur envoyer de l'argent, des attestations pour qu'ils puissent faire le passage aux États-Unis. Ils n'ont pas pu se retrouver aux États-Unis parce que Anders était sur la côte ouest et Arendt est resté sur la côte est. Donc Anders, il était dans la maison de Marcuse en Floride. En Californie, pardon. La géographie, c'est pas mon truc. Ils étaient vraiment séparés, mais ils restaient en bon terme. Ils se sont plus ou moins perdus de vue. Ensuite, Anders est retourné à Vienne en 50. Enfin, il a accompagné sa femme à Vienne. Et Arendt, quand elle est retournée en Allemagne, en fait, il y a eu toute une série d'échanges. Anders voulait vraiment la voir, mais Arendt... elle a pas fait le trajet pour venir voir Anders. On sait pas trop ce qui s'est passé. Ils se sont ratés. Voilà. Donc il y a vraiment. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue conceptuel qu'il y a entre eux, et plus que les histoires. L'histoire, parce que leur histoire particulière, personnelle, elle est traversée de la grande histoire politique. mais il y a vraiment quelque chose comme un dialogue conceptuel entre eux.
Puis il y a le, pardon, je vous coupe, il y a le rapport avec Heidegger aussi qui est très oui. qui joue là-dedans et qui est très complexe en fait.
Qui est très complexe, mais parce que le rapport à d'Arendt à Heidegger est très complexe, c'est-à-dire qu'elle essaye de se rapprocher de nouveau de Heidegger après la guerre, même si elle est parfaitement consciente que Heidegger a collaboré avec le régime nazi. Même si elle se démarque totalement de sa pensée la condition de l'homme moderne. Donc même si Arendt n'est pas du tout dupe du penseur qui est Heidegger, elle essaye de se réconcilier avec la personne, alors que Anders est beaucoup plus intransigeant et refuse tout d'avoir parti avec Heidegger. Donc il y a aussi un froid de ce point de vue-là. Ce qui n'empêche pas Anders, à la fin de sa vie, dans les années 80, d'écrire un texte que moi je trouve très beau, qui s'appelle La bataille des cerises, qui est une sorte de reprise des dialogues c'est Anders qui se souvient des dialogues qu'il a pu avoir avec Arendt lorsqu'ils étaient mariés, lorsqu'ils étaient jeunes mariés et qu'ils équetaient des cerises ensemble. Ouais. Et c'est très beau, et c'est les moments où on voit que leur pensée philosophique à tous les deux émerge de leur activité philosophique de philosopher ensemble, de synphilosophein. Et c'est là qu'on voit que, enfin, il y a tout un dialogue dans la bataille de cerises où en fait ils s'interrogent sur le fait de pouvoir briser les frontières de l'ego, du moi, du sujet, pouvoir accéder à autrui. Et Anders, il dit, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas des sujets comme des monades leibniziennes qui sont sans fenêtre, qui n'ont pas accès à autrui directement? Est-ce qu'on n'est pas un sujet clos sur soi-même? Et du coup, est-ce que la véritable communication avec autrui est vraiment possible? Et Arendt, elle lui répond simplement, oui, mais... Nous, est-ce qu'il y a encore un nous qui est seulement possible si on pense cette clôture du sujet sur lui-même ou pas? Et c'est là, pour moi, dans ce dialogue, on voit vraiment leurs deux opinions politiques, ou options politiques qui se dégagent, c'est-à-dire une philosophie de l'action en commun, de la pluralité pour Arendt, où finalement agir, c'est toujours agir ensemble, et finalement une philosophie, une phénoménologie qui est plus presque individualiste chez Anders, qui est plus une où l'action, elle se pense. Par une place du sujet, souvent contre les autres plus qu'avec les autres. Je sais pas si j'ai. Ouais. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question?
La bataille des cerises, moi je me rappelle avoir vu le texte d'Anders à Vienne, aux archives. C'était un cahier d'écolier, c'est qu'au stylo à billes, c'est hyper émouvant de voir ce truc-là. Parce que ça m'est arrivé à un moment de travailler un peu sur la correspondance de Anders et Hans Jonas. Et donc, ils apprennent tous les deux la mort d'Arendt. Et donc, c'est quelqu'un d'hyper important. Aussi pour Hans Jonas. Et en fait, dans ces lettres, on voit, enfin dans les lettres qu'Anders envoie à ce moment-là, on voit qu'il est en train de qu'il accuse le coup, quoi. Qu'il est, c'est hyper important pour lui ce truc. Puis il écrit ce texte là sur ses cahiers d'écolier au stylo à billes. Là, c'est assez émouvant. Puis sinon, pour revenir à des choses moins sentimentales, à des choses plus conceptuelles, c'est vrai que les œuvres, mais ça tu sais mille fois mieux que moi, les œuvres, il y a effectivement Conditions de l'homme moderne et les obsolescences de l'homme, et puis Eichmann à Jérusalem et Nos fils d'Eichmann et tout ça, il y a vraiment quelque chose à construire comme un dialogue entre les deux.
Ben, c'est ça, enfin, c'est-à-dire que en fait ils ont la même base de concepts phénoménologiques, ils ont étudié chez les mêmes maîtres, et ils font avec cette base de concepts phénoménologiques, ils en font des philosophies totalement différentes, mais en utilisant en quelque sorte les mêmes mots. Il y a toute une réflexion sur la perte de monde, sur l'acosmie, en fait, le danger que Arendt lit dans la modernité, c'est ce danger de l'acosmie, de la perte d'un monde qui se raréfie, de la perte d'un monde commun, des relations humaines qui se raréfient sous l'effet de la technique, sous l'effet du consumérisme, sous l'effet de enfin, bref, enfin, enfin sous l'effet de la modernité. Et en fait, cette acosmie, c'est aussi un terme qui travaille Anders. Mais Anders, il le pense en termes de perte de monde, c'est-à-dire la manière dont les sujets sont privés du monde qui les entoure par le chômage, par l'exil.
C'est là, dans l'analyse de En attendant Godot, de Beckett, qu'Anders emploie le terme, je crois, d'acosmie, enfin, montre ce que c'est que, à partir des deux personnages de Beckett, de En attendant Godot, la privation de monde, en fait, le monde, on n'a plus de monde, on n'a plus de réalité. La réalité s'est éloignée, c'est quelque chose de
très... C'est un thème qui vient de loin chez lui, parce qu'il parle déjà de ça. Justement, on parlait de Dublin tout à l'heure. Il a écrit aussi sur Berlin Alexanderplatz et sur le fait que, justement, ce personnage de Franz Bieberkopf finit par perdre le monde. Et puis, il y a des... je sais plus, je pensais à autre chose. Enfin, je sais plus, ça me reviendra peut-être. Mais il y a cette histoire de... Oui, et puis il y a un texte qui s'appelle « Anthropologie des chômeurs ». Et justement, qui parle de ça, qui parle du fait que le fait d'être désocialisé, ça fait qu'on perd le monde aussi, d'une certaine façon. Et sinon, pour revenir sur Arendt et Heidegger, il y a un autre homme entre eux. Il n'y a pas que Heidegger, il y a aussi un monsieur qui s'appelle Walter Benjamin, et pour des raisons différentes. C'est-à-dire que Walter Benjamin, c'est un cousin d'Anders, un cousin lointain, qu'il a, en fait, finalement peu fréquenté étant enfant et étant jeune homme. Alors, je parlais de William Stern tout à l'heure, dans un de ses livres sur la psychologie de l'enfant. Justement, comme il observe ses enfants, puis il observe les enfants de la famille aussi. Et il y a un certain Walter B dont il est question de l'imagination remarquable, etc. Voilà, c'est ce Walter-là. Et donc, Anders va en fait découvrir son cousin à Paris. Il va vraiment le découvrir et puis le fréquenter. Ils vont même travailler ensemble. Ils vont essayer de faire comme ils sont en exil et qu'ils n'ont pas le droit de travailler en France. Il faut qu'ils se débrouillent pour gagner de l'argent en venant d'Allemagne. Et donc, ils essayent de monter des émissions pour la radio allemande sur la traduction et d'autres questions comme ça. Et donc, ils sont assez proches à ce moment-là. Et du coup, Arendt et Anders étant toujours proches à ce moment-là, puisqu'ils habitent toujours ensemble, disons que Arendt découvre aussi Benjamin, et ça va être quelqu'un d'important pour elle aussi. Et donc, il va y avoir toute une querelle. Bon, c'est pas la peine de rentrer là-dedans, c'est pas brillant, mais il y a toute une querelle après avec Adorno qui va les accuser d'avoir mal parlé de Benjamin, tout ça. Mais en fait, ils ont vraiment vécu tous les deux, aussi bien Anders qu'Arendt, aussi dans l'admiration de Benjamin, quoi.
Bonjour, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit jusque-là. Donc j'ai une question, une toute petite introduction. L'an dernier, j'étais à l'étranger, au Portugal, précisément, et je cherchais à acheter de la poésie en portugais, et j'ai arpenté comme ça 1, 2, 5 librairies, avant d'être frappé comme ça par un constat, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de poche disponible. Et je me suis dit, mince, mais en fait, nous, on a accès à tout un tas de livres dans des formats plus ou moins économiques, etc. Et ce n'est pas le cas partout. Et on se rend compte que quand on n'a pas accès comme ça à ces livres-là de la même façon, bah, ça conditionne beaucoup de choses sur la culture aussi. Donc, par rapport à ça, bah, merci à la librairie de mettre à disposition tous ces formats-là. Et merci à vous aussi, puisque finalement, vous rendez disponible là... à travers cette traduction, une œuvre qu'on ne connaît pas du tout en France, et c'est quelque chose qui est énorme. Moi, j'ai découvert ça via le site de la librairie Terra Nova, un peu par hasard, en faisant des recherches sur Gunther Anders, mais j'ai vu le nom en faisant des recherches sur lui, sur les rencontres, et j'ai découvert après ce livre-là. Donc, j'avais une question et une petite question subsidiaire. Là, on est en 38, donc a priori sur cette version-là, donc entre Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, c'est 32 de mémoire. Et 1984, Orwell, ça doit être 48, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ce roman s'inscrit un peu dans la continuité entre ces deux ouvrages majeurs? Est-ce qu'on peut dire ça, selon vous? Le monsieur disait que la pièce maîtresse de Gunther Anders, c'était L'obsolescence de l'homme. Est-ce que finalement, ce n'est pas celle-là, sa pièce maîtresse, avec une portée plus vaste? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après, la mini-question subsidiaire, c'est juste par curiosité. Comment ce projet est né? Qu'est-ce qui fait que ça nous arrive aujourd'hui en France? Voilà, un peu les dessous de la traduction. Merci.
Ben, merci pour votre question. Moi, je vais répondre en ce qui me concerne. Hein, ça n'engage pas forcément Christophe. Moi, c'est mon Anders préféré parce que c'est le premier que j'ai traduit. Non, mais aussi parce que c'est de la vraie littérature et je trouve qu'il est à la fois drôle et cynique et l'obsolescence de l'homme, c'est un énorme texte de philosophie. Mais celui-là, il est super inventif et super malin et enfin moi je trouve qu'on n'a pas fini de l'interpréter encore et je pense que je vais passer encore de longues années de recherche à l'interpréter. Et il y avait quoi encore comme question
par rapport à la situation, par rapport au
Huxley. Bah oui, mais moi je trouve totalement. Anders, il parle de Huxley et de 1984 dans l'obsolescence de l'homme et de Stanislav Lem, de Solaris. Il s'inscrit vraiment dans cette tradition des dystopies et je pense que c'est exactement ce qu'il a voulu faire dans le livre, de faire de l'Allemagne une dystopie et de montrer que de l'Allemagne telle qu'elle existe en réalité, c'est déjà ces gouvernements totalitaires fantasmagoriques que les écrivains de dystopie peuvent écrire. Donc oui, totalement, et Anders en est, à mon avis, c'est ce qu'il veut faire, quoi. Il en est pleinement conscient. Et pour les dessous de la traduction,
Moi, je mets mon petit grain de sel en disant qu'il y a peut-être une dimension dont on n'a pas parlé, mais effectivement vous l'avez évoqué, c'est l'humour. C'est que très souvent Anders est brillamment drôle, quoi. Hein, très souvent.
C'est de l'humour.
Ah oui, c'est l'humour du désastre, comme dit notre ami Volodine.
Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Je voulais dire, par rapport à cette histoire de Huxley, Lem, Orwell, tout ça. Donc, effectivement, par exemple, moi, je me rappelle avoir couru pendant longtemps. Après, j'avais vu dans une bibliographie qu'il y avait un texte d'Anders sur Orwell. Je me disais, super, je vais trouver ça. En fait, ça fait 8 lignes. Mais bon, voilà. Mais en même temps, il parle d'Orwell ailleurs dans les obsolescences et tout. Mais c'est quelque chose d'important. Il parle souvent de la science-fiction. Il dit que les auteurs de science-fiction, c'est des prophètes d'aujourd'hui. Et Anders, il a croisé dans les années 60-70. Il était très proche d'un monsieur qui s'appelle Robert Jungt, qui est l'auteur d'un livre qui a beaucoup compté pour Anders, qui s'appelle « Le futur a déjà commencé ». Et en fait, Anders a parodié le titre en intitulant un chapitre d'un de ses textes « Le futur est déjà terminé ». Et en fait, ce Robert Jungt, et à l'époque, il y avait aussi Alvin Toffler, tout ça, c'est des gens qui se présentaient comme des futurologues. Et en fait, Anders, ça l'a toujours intéressé, ça, le fait d'imaginer comment ça peut tourner, quoi, tout en mettant bien sûr les choses au pire. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours l'esprit de la dystopie qui plane au-dessus de ce qu'il fait, quoi. Mais il revendique tout à fait ces gens-là. Hein, moi, Huxley, bon, déjà Adorno en parle d'une certaine façon. Orwell, il n'y a que Anders qui en parle dans cette mouvance de la théorie critique. Et Stanislas Lem, moi, j'étais assez étonné qu'il parle de Stanislas Lem, mais il l'intéresse aussi pour des raisons particulière, c'est que Stanislas Lem, c'est non seulement le génial auteur de science-fiction qu'on connaît, mais c'est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Summa Technologica, qui parle aussi de la technologie. Donc voilà, ça c'était pour parler de ces auteurs de science-fiction, justement. Et sinon, oui, par rapport à... Alors, Perrine dit c'est le meilleur Anders. c'est compliqué parce que, en fait, on est en train de faire.
C'est celui que je préfère.
Mais on est en train de faire quelque chose de compliqué là, parce que, en fait, je disais tout à l'heure qu'Anders, il a été adopté comme ça en France à travers les deux obsolescences, à travers la critique de la technique et tout ça. Puis après, on s'est dit, on va faire découvrir d'autres côtés d'Anders. Alors, moi, je me rappelle avoir bossé sur le côté militant. Militantisme anti-nucléaire, avoir bossé après avoir traduit des choses dans le registre de la philosophie de la culture, et puis on s'est dit on va aller voir aussi les textes sur le judaïsme, les textes de la poésie, on va commencer à regarder la littérature, puis du coup on a déplacé les choses ailleurs, et donc on grosso modo l'idée c'était de dire Anders c'est pas que les obsolescences, mais après le le contre-coup de l'affaire, c'est qu'il ne faut pas oublier les obsolescences, parce que c'est quand même des sacrés bouquins, quoi. Et du coup, je veux dire, ces bouquins-là, les bouquins dont je viens de parler, là, qui parlent de littérature, de culture, le côté romanesque, tout ça, ça c'est génial, mais il ne faut pas oublier que les autres textes existent et qu'ils ont quand même une sacrée puissance philosophique, quoi.
Et puis, il y a quelque chose qui est très important, c'est sous la diversité, tout est abordé, quasiment tous les champs de la culture sont abordés par Anders. Et il parle, c'est dans l'introduction de l'obsolescence, je crois, le tome 1, il insiste sur le principe de non-contradiction, hein, c'est-à-dire que je ne fais pas un système philosophique, mais tous les morceaux de philosophie auxquels je m'intéresse finissent par former quelque chose, mais qui n'est jamais en contradiction. Hein. Il y a toujours l'idée d'une unité, il y a une pensée qui... Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire chez lui, c'est cette...
mais non, en fait, ouais, non, mais on se moquait, avec Christophe, on se moque souvent d'Anders parce que dans la préface de chacun de ses textes, il insiste pour dire je ne suis pas systématique, mais je suis cohérent. Il le dit à chaque fois. Et c'est un peu une blague de traducteur, mais l'idée c'est de dire que sa philosophie, il essaye d'en faire une systématicité après coup. C'est-à-dire qu'il pense, c'est un philosophe de l'occasion qui essaye de penser les événements historiques tels qu'ils apparaissent avec une forme d'hybride de journalisme et de métaphysique. Et à partir de là, il essaye de généraliser, de penser le monde à partir des événements concrets desquels il part. Et du coup, il n'y a pas de systématisation. C'est-à-dire qu'il n'impose pas au réel un système de pensée ou un système conceptuel prédéfini, mais il part du réel pour essayer de penser le monde dans une forme de totalité du monde. Et c'est là sa cohérence, en fait. Sa cohérence, c'est celle du monde. Mais si le monde est totalement incohérent, à ce moment-là, le monde qu'il va décrire, ce sera un monde incohérent.
Sur livre dormir.